4 heures ici à Washington DC, 9 heures en temps universel. Merci d'écouter la voix de l'Amérique à ce micro, Mouhamadou Oumfa, pour vous présenter un bulletin d'information. Au Gabon, environ 860 000 électeurs sont appelés à voter samedi dans le cadre d'un référendum constitutionnel. La nouvelle loi fondamentale qu'ils doivent approuver ou non est le fruit de contributions récoltées lors d'un dialogue national en avril. Elle consacre, entre autres, un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois avec un régime présidentiel doté d'un pouvoir exécutif fort sans premier ministre et l'impossibilité d'une transmission dynastique du pouvoir. Plusieurs dispositions ne pourront faire l'objet d'aucune révision future. Parmi elles, la limite des 2 mandats présidentiels successifs, le mode d'élection au suffrage universel direct ou encore le mariage réservé à 2 individus de sexe opposé. Au Tchad, un rassemblement de partis d'opposition a annoncé hier mercredi maintenir son refus de participer aux élections législatives et communales du 29 décembre prochain, malgré une tentative de médiation de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CEAC nous a demandé de participer à ces élections. Nous leur avons répondu sèchement mais fermement que participer à ces élections dans de pareilles conditions, c'est enterrer définitivement la moindre transparence électorale, compromettre la démocratie, légaliser la fraude et la suspension des libertés publiques et politiques, a déclaré dans un communiqué Max Kemkoye, le porte-parole de ce groupe d'opposition. Selon le texte, la CEAC et ses opposants tchadiens se sont entretenus lors de 2 intenses rounds de discussion le 29 et 31 octobre, qui n'ont toutefois pas convaincu le groupe à prendre part à ce qu'ils estiment être des élections factices. À Mauritanie, le procès en appel de l'ancien président Mohamed Ould El Aziz s'est ouvert mercredi à Nouakchott, où il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour amasser une immense fortune. L'ancien chef d'État, qui a dirigé de 2008 à 2019, avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite en décembre 2023. Ses avocats avaient fait appel de la décision. Il comparaît aux côtés d'une dizaine de hauts responsables et de proches, dont 2 anciens premiers ministres, 2 anciens ministres et directeurs de grandes sociétés pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence et blanchiment. La France a versé pour la première fois depuis 3 ans une aide budgétaire à la Centrafrique via un don de 10 millions d'euros de l'Agence française de développement, a annoncé l'ambassadeur lors d'une conférence de presse à Bangui. Signe du réengagement progressif de la normalisation des relations bilatérales entre les deux pays, l'aide est destinée à financer directement, sans conditionnalité ni aucune réserve, des opérations relevant de la souveraineté et de la gouvernance démocratique de l'État centrafricain, a annoncé l'ambassadeur de France, Bruno Fouché. En 2021, la France avait décidé du gel de son aide budgétaire et la suspension de sa coopération militaire avec la Centrafrique, pays jugé complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Une journaliste burundaise détenue depuis plus de 7 mois encourt 12 ans de prison pour des informations qu'elle avait partagées sur un groupe privé WhatsApp, a alerté Reporters sans frontières. Les accusations portent sur un message posté dans un groupe privé WhatsApp où elle s'est fait l'écho d'une information relative à une distribution d'armes par le gouvernement. La journaliste n'enquêtait même pas sur l'affaire, a ajouté RSF dans son communiqué. Le parquet a requis mardi, lors d'une audience devant la haute cour de Bujumbura, une peine totale de 12 ans de prison pour les 2 chefs d'accusation. Le jugement doit être rendu en décembre.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le chef de l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a été reçu ce jeudi à Téhéran par le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, au moment où la montée en puissance du programme nucléaire de l'Iran cristallise les tensions avec les pays occidentaux. « Nous sommes prêts à négocier sur la base de nos intérêts nationaux et de nos droits inaliénables, mais nous ne sommes pas prêts à négocier sous la pression et l'intimidation », a écrit M. Araghchi sur le réseau social X. Abbas Araghchi était en 2015 le négociateur en chef des Iraniens des pourparlers sur le nucléaire avec les grandes puissances. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. Restez à l'écoute des programmes de